Bon, on est dans l'étude des paraboles. Ce matin, on va en voir une autre qui est bien connue, le pharisien et le publicain ou le péager. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce, c'est que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans ma traduction, c'est un péager, mais c'est un publicain. En fait, quelqu'un de la fonction publique, là, il était vu comme un traître parce qu'en fait, il servait les intérêts de Rome dans un sens. Là. Il ramassait les taxes ou le payage, les droits de payage pour Rome. Donc, les péagers étaient mal vus. La plupart du temps, ils étaient soupçonnés de s'en mettre dans les poches en même temps. Là. Ils se graissaient. Donc, Jésus est toujours en route de la Galilée vers Jérusalem. C'est le même voyage. C'est dans Luc qui concentre le récit le rapport des paraboles de Jésus vraiment dans ce voyage-là de Jésus. Qui sont visés par cette parabole? Sûrement que Dieu il pique les pharisiens en racontant ça, mais de manière plus large aussi. Donc, c'est ceux qui se persuadent d'être justes et qui méprisent les autres, parce qu'ils voient bien qu'ils sont pas justes autant qu'eux. Donc, à l'époque, c'était peut-être les pharisiens là, qui étaient les plus propices à avoir cette attitude-là. Mais en fait, c'est tous. Toute personne qui se considère juste et qui méprise les autres. Mais là, on peut se poser la question, pourquoi un pharisien et un péager? Ben, ça peut nous sembler évident, là. Mais un pharisien, c'est parce que c'était considéré comme la personne la plus juste de la société. Mais pas seulement par eux. En général, les gens voyaient les pharisiens comme des gens justes. S'il y avait bien un juste, ça devait être un pharisien. Il devait y avoir des croches là-dedans. Mais en général, ils supposaient que les pharisiens étaient justes. Les péagers étaient vus comme les plus méprisés. Ils étaient les plus méprisables de la société. Ils étaient le contraire d'un juste. Parfois utilisé comme un synonyme pour dire un païen, un injuste. D'ailleurs, quand Jésus nous donne les consignes pour la discipline, quand on arrive à la dernière étape de la discipline, puis qu'il dit là, s'il refuse de se repentir, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un péager ou un publicain. Certains ont conclu qu'ici que Jésus dénonce une fois de plus l'hypocrisie. Mais c'est pas vraiment ça. Il y a peut-être un peu d'hypocrisie dans l'attitude quand on méprise les autres, là, mais c'est pas ça qui est vraiment dénoncé. Parce que ce que le pharisien a dit dans sa prière, c'était vrai. Dans le sens que ce qu'il rapporte est vrai. C'est pas un tissu de mensonge. C'est vrai qu'il s'efforce d'être intègre, d'être honnête, fidèle. Il s'efforce de ne pas être accapareur, ça veut dire de voler le bien des autres, d'être injuste, d'être corrompu. Il s'efforce de ne pas être adultère. Puis il voit bien que ces péchés-là dans le peuple, puis qu'eux arrivent par leur standard de vie à ne pas faire ces péchés. Donc c'était vrai dans un sens qu'il disait qu'il était différent. Puis c'était vrai aussi ce qu'il prétendait, là, qu'il jeûnait deux fois la semaine. Il jeûnait le deuxième jour. Puis même, c'était un jeûne sans boire. Le deuxième jour de la semaine, c'était en souvenir de Moïse qui était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. C'était le deuxième jour de la semaine. Puis il refaisait ça à la manière de Moïse, fidèlement à chaque semaine. Puis il jeûnait aussi le cinquième jour. C'était le jour où Moïse est redescendu de la montagne. Mais c'était pas prescrit par la loi, juste qu'il en faisait plus pour être plus proche de Dieu, plus juste. Puis c'est vrai qu'il donnait la dîme de tout leur revenu, puis parfois même deux fois, parce qu'il... Ils donnaient 10 % de tout ce que leur champ leur rapportait, ou leur propriété leur rapportait, ou leurs employés, tous les revenus qu'ils pouvaient avoir. En plus, les pharisiens pieux, là, lorsqu'ils achetaient quelque chose, même ils achetaient de l'herbe, ils payaient un 10 % de plus au temple. C'est comme s'ils payaient une taxe sur l'achat. Là. Donc, ça arrivait qu'en général, ils payaient jusqu'à 20 %. Puis le mouvement des pharisiens, c'est intéressant de voir ça dans l'histoire. Je ne sais pas si les pharisiens étaient toujours conscients de ça, mais le mouvement des pharisiens est né... Après l'exil, lorsqu'ils sont retournés dans la terre promise, ils ont reconstruit le temple. Ils avaient peur de retomber encore dans les mêmes péchés, puis que de subir le même jugement de Dieu, puis d'être encore une fois exilés. Puis ils ont créé le mouvement des pharisiens à travers le temps, là, pour éviter que le peuple retombe dans ces péchés-là, pour s'assurer que le peuple reste pieux. Donc les pharisiens étaient là comme modèle pour le peuple. Donc à l'origine, c'était une bonne intention. Est-ce que vous voyez un autre point positif aussi dans la prière du pharisien? Bien, plusieurs pensent qu'il se parlait à lui-même, mais c'était probablement à haute voix. Ça se peut que le péager ait entendu ce qu'il a dit, là. Mais peut-être pas, là. Ça peut être positif. Si vraiment il faisait à voix basse ou dans sa tête, c'est positif, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses de positif dans sa prière? Il rend grâce à Dieu, il ne s'accorde pas le mérite, en tout cas pas officiellement. Lorsqu'on se vante soi-même, wow, je suis bon, c'est comme la vantardise encore plus frappante, là. Ici, il n'avait pas l'air de se vanter. Il a l'air de rendre gloire à Dieu. Mais c'est ça, il ne se donne pas directement le crédit. Il rend grâce à Dieu. Donc, jusque-là, les auditeurs de la parabole, là, quand Jésus racontait la parabole, ils devaient dire, ah ben, c'est un bon exemple, qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer là. Un bon pharisien qui ne pêche pas, puis en plus, qui rend grâce à Dieu pour cela. Il est reconnaissant envers Dieu de comment il l'a rendu. Il devait voir le pharisien comme un exemple positif. Mais sa prière, ça reste une glorification personnelle, on le sent. Il se glorifie. Surtout si c'était à voix haute, on ne sait pas, là, mais...
Mais il y a beaucoup de « je ».
Ah ouais, c'est sûr. Oui, ils sont peut-être partis d'une bonne intention, les pharisiens, en se faisant une liste, mais ça a été un piège pour eux. S'il n'y a personne qui l'entend, c'est comme s'ils se vantent devant Dieu. Si les gens l'entendent, là, ils se vantent devant les hommes, mais en tout cas, peu importe, c'est vrai qu'il est en train de se vanter. Parce que pourquoi on allait prier au temple à l'époque? C'était pas aller vers Dieu, là, pour le consulter, mais aussi pour obtenir sa faveur, obtenir ses bénédictions, lui apporter nos requêtes, le louer pour qui il est, mais c'était pour obtenir sa faveur. Là. Ça dit juste qu'ils allaient pour prier, qu'ils allaient pour s'adresser à Dieu. C'est quoi le message, dans le fond, que le pharisien envoie à Dieu? C'est « Tu m'en dois une, là. Puisque je suis si juste, tu me dois ta faveur. » Il ne lui demande même pas la faveur à Dieu. Il fait juste lui rappeler à Dieu à quel point il est juste.
Encore une fois, c'est une justice qui est basée juste sur des choses extérieures. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, mais jamais une question de son cœur. C'est toujours, même quand il se compare aux autres, il se compare à des actions des autres. C'est ça, c'est la religion extérieure.
Ouais. Mais c'est là que je dis, des fois, il se croyait bon. Là. Il était comme aveuglé, des fois. Les gens, des fois, ils sont grandis comme ça, dans la religion. Ils font des bonnes choses envers Dieu. Ils sont zélés aussi. Ils pensaient qu'ils faisaient bien, là, en persécutant l'Église. Mais ça a pris Jésus pour le
faire. C'est comme les trois adventistes qui sont venus nous évangéliser la semaine passée. Ils sont zélés, là, mais ils sont aveuglés. Puis ils croient que nous, on est des injustes, on est des publicains parce qu'on se réunit le dimanche. Puis c'est satanique de se réunir le dimanche parce que ça a été instauré par l'Église catholique. Donc, eux, en se réunissant le samedi, en suivant les lois de l'Ancien Testament, mais bien sûr, ils ne peuvent pas toutes les suivre, les lois de l'Ancien Testament. Donc, ils ont fait leur propre liste de ce qu'ils pensent être la loi de Dieu perpétuelle, éternelle. Puis, ils s'efforcent de la suivre, puis ils croient être justes à cause qu'ils suivent la loi. Ils peuvent tout respecter la loi, mais ils ne peuvent pas offrir des sacrifices. C'est ça. C'était l'autre point négatif que je voulais soulever là, dans la prière du pharisien, c'est qu'il évalue sa justice en se comparant, mais pas en se comparant à Dieu, là, en se comparant au péager, au reste des hommes. C'est qui ça, le reste des hommes? C'est ça. Dans le fond, il se compare avec des classes de la société. Lui, il fait partie du groupe des pharisiens. Le reste des hommes, dans le fond, là, c'est tous ceux qui ne sont pas pharisiens. Pas compliqué, il y a juste les pharisiens qui sont saints. Les scribes, les docteurs de la loi qui sont avec eux. Mais en fait, à qui ils devraient se comparer? Aux autres pharisiens? Ils devraient se comparer à Dieu. Comme Jésus dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est le Père céleste qui est notre standard. Ben c'est ça. Mais quand tu vois cette commande-là, tu dis « Oh, finalement... » Que tu sois un petit peu mieux qu'un autre à côté, là. La différence est minime à comparer à ce que tu devrais être. Mais dans sa prière, Jésus a pris la peine de lister des choses que le pharisien aurait dites, que tu peux pas trop le confronter là-dessus. C'est vrai qu'il jeûne. Jésus leur a jamais reproché. Vous dites que vous jeûnez, puis c'est pas vrai. Non, c'est vrai qu'il jeûne. C'est vrai qu'ils sont pas adultères. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu peux pas l'accuser d'être hypocrite. Le problème ici du pharisien qui prie, c'est qu'il se vante, il se glorifie, il s'auto-justifie. Il regarde les bons coups qu'il fait, là. Il se croit juste. Dans le fond, il doit bien le savoir là, qu'il ne l'est pas, mais il l'oublie, ça. Il met ça en dessous du tapis. Là. Je suis juste devant les hommes, donc forcément, Dieu doit me considérer juste.
Je me rappelle justement à propos du jeûne, comment dans Ésaïe, Dieu dit au peuple, « Je hais votre jeûne, je hais vos fêtes. »
Ouais.
Je hais tous les rites que vous faites parce que votre cœur n'est pas avec moi. C'est extérieurement, oui, vous jeûnez et tout. » Mais c'est un jeûne auquel je ne prends pas plaisir, parce que c'est pas un jeûne, le jeûne de celui, justement, je pense que c'est dans Ésaïe 40, c'est pas le jeûne de celui qui s'humilie devant Dieu. C'est un jeûne pas juste hypocrite, mais orgueilleux aussi.
Oui, c'est ça. C'est pas un sacrifice de bonne odeur, c'est un sacrifice qui pue. Parce qu'on ne voit pas dans le cœur des gens, on voit l'apparence, on voit les fruits qu'ils portent aussi, mais Normalement, quand on se compare, on trouve que les autres sont pires que nous tout le temps. C'est très rare qu'on va dire, oh, cette personne-là est vraiment meilleure que moi. On voit la paille dans l'œil de nos frères. Parce que notre œil est bloqué par une poutre. Donc, qu'est-ce que ça démontre l'attitude du pharisien? L'orgueil. Puis par rapport à sa relation à Dieu, ouais, il est aveuglé. On dirait aussi qu'il est autosuffisant. Il est indépendant. Il a réussi à atteindre même s'il rend gloire à Dieu, bon, merci de je suis comme ça, là, il surfe là-dessus. Puis lui, parce qu'il est comme ça, il est indépendant de Dieu, il n'a pas besoin. C'est sûr qu'il reconnaît que Dieu est tout-puissant. Il n'a pas besoin de Dieu pour ce qui est de son cœur, là. Et c'est quoi l'attitude du PSG, lui? L'humilité? Ouais. Comment il le montre, ça, qu'il est comme ça? Il avoue qu'il est pécheur. Il le dit même.
Il n'ose pas lever les yeux.
Ouais, il n'ose pas lever les yeux. Ça contraste avec le pharisien qui prie debout, lui. C'est pas que c'est mal de prier debout, là, mais quand t'es honteux, t'oses pas trop lever la tête au ciel, là. Il n'ose pas lever les yeux, donc il reconnaît qu'il est, dans un sens, qu'il est indigne dans la présence de Dieu, là. Si Dieu lui apparaissait, là, il sait qu'il mourrait, là. Puis, un autre signe aussi qui montre son attitude, c'est qu'il se frappe la poitrine, là. Il y en a qui associent ça avec des coutumes qu'il pouvait avoir à l'époque, puis c'est pour démontrer une profonde douleur, mais ça peut être juste un geste aussi. Ouais, tu frappes ton cœur, tu vois qu'il est là le problème. C'est pas l'extérieur le problème, c'est en dedans. C'est un aveu de culpabilité. Puis c'est une douleur aussi. Il souffre de voir son état. Quelle autre chose qui demande son attitude? Ah, c'est sûr, il fait pas une liste de ses bons coups. C'est vrai, il se tient à distance. C'est comme si ça sous-entend que lui, il veut pas nécessairement être entendu, là. Il est pas là pour faire un show. Il va rencontrer son Dieu. Lui, il doit avoir plus une relation personnelle, là. Il se soucie pas nécessairement de ce que les gens pensent de lui, là. Il va prier son Dieu. Il avoue son péché, puis aussi, il demande. Il demande grâce, en fond, là. Sois apaisé envers moi. Il demande le pardon de Dieu. Il dit ce qu'il ressent. Il est repentant. Parce qu'il avoue son péché, il avoue son état de besoin, puis il demande le pardon. Il est repentant. Il se tourne vers Dieu. C'est sous-entendu qu'il désire changer. Il le dit pas, là, mais c'est sous-entendu. Son attitude, c'est l'humilité, comme vous l'avez dit, mais aussi la dépendance. Il reconnaît qu'il peut pas par lui-même, là. Il est dépendant de Dieu. Il lui demande que Dieu soit apaisé envers lui. Ça veut dire qu'il reconnaît que lui ne peut rien faire pour apaiser Dieu. Si Dieu est en colère contre lui, c'est justifié qu'il le soit.
C'est le contraire du pharisien. L'autre, il pense qu'en faisant des choses, il va avoir la faveur de Dieu. Tandis que l'autre, il sait qu'il ne peut rien faire.
C'est ça. Puis contrairement à ce que ceux qui ont entendu la parabole, contrairement à ce qu'ils auraient pu penser, Jésus dit que c'est le péager qui est justifié, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, être justifié? Être déclaré juste par Dieu. Il ne faut pas confondre ça avec la doctrine de l'Église catholique qui dit que Dieu nous justifie. Ça veut dire qu'il nous rend progressivement saints. Ils confondent ça avec la sanctification. À ce moment-là, personne ne peut être juste, jamais. Parce que qui va réussir à être saint à 100%? Personne. C'est pour ça qu'aucun bon catholique qui peut dire « je suis sûr d'aller au ciel ». Parce qu'ils vont dire ça, c'est de la prétention, parce que personne n'a atteint la sainteté encore, donc personne ne peut dire « je suis sûr d'aller au ciel ». C'est parce que la justice que Dieu nous donne, c'est pas parce qu'il nous rend progressivement juste, il nous déclare juste. Bang! C'est parce que ça ne dépend pas de nous, c'est seulement sa grâce. Donc, être justifié, c'est être déclaré juste par Dieu. Lorsque Dieu déclare quelqu'un juste, la personne passe de l'état injuste à juste. Après ça, Dieu la regarde comme étant sainte. Ils vont faire des bonnes choses, là. Ils vont obéir à Dieu par reconnaissance, mais le fait que tu es justifié, c'est par ta foi dans les promesses de Dieu, ta foi dans la grâce de Dieu. Mais il était présent, ça a toujours été par la grâce qu'on est sauvé. Oui, c'est ça, c'est un changement. Puis ce que Jésus annonce ici, c'est pour eux, c'est un gros changement aussi. Là. Le fait d'être déclaré juste parce que tu reconnais tes pécheurs. Hein? Mais il est en train d'annoncer le royaume en faisant ça. Là. Il est en train de montrer c'est quoi la condition pour être dans le royaume de Dieu. En fait, si tu arrives à dire « moi, je suis sûr que je suis sauvé », c'est parce que tu es assez humble pour reconnaître que c'est Dieu qui a tout fait la job, là. Paul reprend cette idée-là, mais c'est plus clair après, là. Une fois que le Saint-Esprit a été donné aux apôtres et qu'il l'explique, là. Dans Romains 3:20, il dit, nul ne sera justifié. Ça veut dire, personne ne sera déclaré juste devant Dieu par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On se rend compte qu'on est pécheur. Personne n'arrive à faire la loi à 100%, mais personne n'est déclaré juste. Dans Galates 3:24, ainsi, la loi a été un précepteur ou un pédagogue, mais quelque chose qui nous a conduit pour nous montrer qu'on ne pouvait pas se justifier par nous-mêmes, en observant la loi, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, l'humilité est nécessaire au salut. Jésus l'a exprimé de plusieurs façons là, dans, dans ses paraboles, dans ses discours. Mais est-ce que cette parabole est utile quand même à nous qui sommes sauvés, qui avons été déclarés justes? Et nous qui avons été justifiés, on sait qu'on ne retombe pas sur la colère de Dieu. Mais ça ne doit pas nous empêcher de craindre Dieu, de lui demander son pardon. Même Jésus nous invite à le faire dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses. On doit être conscient qu'on offense Dieu quand on pêche. Puis c'est normal d'être triste et d'être honteux de son péché. Même si on a été déclaré juste, l'expérience du péché, on peut la revivre régulièrement dans notre vie. Où est-ce qu'on a honte, puis on pleure sur notre péché, on se repent, on redemande la grâce de Dieu. Pas parce qu'on pense qu'on avait été rejeté, on sait qu'on est dans sa main, on est ses enfants, mais on lui redemande sa grâce dans notre vie. C'est sa grâce qui fait qu'on peut sortir de notre misère. Cette parabole nous appelle à vivre dans l'humilité. Ça, c'est face à Dieu et face à nos frères. Elle nous appelle à quoi, cette parabole? Oui, pardonner nos frères, c'est sûr. Pourquoi Dieu nous pardonnerait si on refuse le pardon aux autres? La miséricorde. Oui, ne pas se comparer, parce que sinon, on va tomber dans le piège de mépriser les autres, de les juger. Ne pas mépriser son frère. C'est pour ça que Jésus conclut en disant « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est sûr que celui qui s'élève de manière absolue, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de Dieu, qui n'a jamais accepté d'avoir besoin d'être sauvé, il va être abaissé d'une manière absolue aussi. C'est-à-dire qu'il ne sera pas sauvé. Si vous vous souvenez de Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est l'humilité qui fait que tu peux marcher avec Dieu, pas d'une manière indépendante, orgueilleuse. Dans Ésaïe, on voit malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents et qui se considèrent sages. Le contraire de cela, Jésus le dit aussi dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est de reconnaître son état de pauvreté spirituelle, reconnaître sa dépendance à un sauveur. On voit dans Romains, Paul, il rappelle ça. Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. C'est à Dieu de nous juger. Donc, si on ne doit pas mépriser, on ne doit pas juger, qu'est-ce qu'on doit faire à la place par rapport aux autres? Oui, exhorter. La clémence. Même dans Philippiens, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il dit? C'est même d'aller à l'inverse. Estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est vraiment une attitude à l'envers. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Je lisais l'histoire d'une professeure d'école du dimanche qui enseigne aux enfants, qui raconte cette parabole-là, du pharisien puis du péager, pour montrer qu'il ne faut pas être orgueilleux comme le pharisien, il faut être humble comme le péager. Puis là, à la fin, après qu'elle ait raconté ça, elle a dit aux enfants, « Bon, maintenant, on va prier, on va remercier Dieu qu'on n'est pas comme ce pharisien. » Fait que nous, on peut remercier Dieu qu'on n'est pas comme cette professeure d'école du dimanche. Il y a une autre parabole qui est proche, dans le même thème, là. Jésus avait raconté ça un peu avant, Luc 14, 7. Bien, le contexte ici, c'est que Jésus il a été invité dans l'un des chefs des pharisiens dans la maison pour prendre un repas dans les premiers versets. Là, il guérit un homme, il les challenge, là, parce que c'était le jour du sabbat. Puis là, par la suite, il leur adresse une parabole, verset 7. Il adressait ensuite une parabole aux invités, parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne qu'à te dire, cède-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. » Et lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra qui t'a invité, celui qui t'a invité, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On voit le même principe, mais dans un autre contexte. À l'époque, dans la salle du repas des noces, je ne sais pas si c'était toujours comme cela, là, mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y a tous s'assoyaient sur des matelas, des coussins par terre. Puis les coussins qui étaient le plus près de la porte, là, quand tu rentrais, là, c'était des petits coussins pas épais. Là. C'est comme si tu étais assis à terre. Puis plus que tu allais vers le fond de la salle, plus que les coussins étaient moelleux. Puis ceux qui étaient dans le fond de la salle, ils étaient tellement épais que ceux qui étaient assis dessus, leurs pieds ne touchaient même pas à terre. Donc c'est sûr que tu avais le goût d'aller t'asseoir là. Mais c'était les places d'honneur, ça. C'est comme si, quand on va dans un mariage, là, à la réception, il y a la table d'honneur où les mariés puis les gens de la famille. Là. Mais à l'époque, s'il y avait invité. Un chef de pharisien, ben lui, c'est lui qui devait aller là. Toi, si tu prenais sa place, il y avait un risque que quelqu'un te dise « Non, 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 c'était réservé, ça. » Là, tu te retrouverais sur les petits matelas. Puis Jésus, bien, il présente lui-même ce principe là derrière cette parabole. C'est « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » D'ailleurs, ce principe-là se voit dans toute la Bible. Dans Proverbes, déjà, on voit « L'orgueil d'un homme conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » On voit que Dieu arrange les événements là, pour que les orgueilleux, finalement, soient humiliés et les humbles soient honorés. C'est sous-entendu que Dieu est derrière ça, derrière ce principe-là, là, mais il ne parle pas de l'intervention directe de Dieu. Il parle plutôt de la réaction normale des gens dans le peuple de Dieu. Si Dieu est un Dieu qui résiste aux orgueilleux et qui fait grâce aux humbles, on voit ça dans 1 Pierre 5:5, on voit ça dans Jacques aussi, dans le fond, c'est tiré de l'Ancien Testament, mais c'est normal que son peuple, qui finit par ressembler de plus en plus à Dieu, va avoir la même réaction. Les orgueilleux, on va résister aux gens qui sont orgueilleux. Puis on va faire grâce aux hommes, on va les honorer. Donc c'est normal que les serviteurs de Dieu tendent à avoir la même réaction. Mais c'est pas toujours le cas. Dans la société, c'est pas toujours le cas. Ceux qui se prennent pour une vedette, là, qui veulent aller à la voie, ils sont honorés. Plus tu te prends pour un autre, on dirait plus tu es honoré. Mais il y en a toujours qui vont te critiquer, là, mais ceux qui veulent être honorés sont honorés, puis ceux qui se vendent pas, sont pas trop honorés. Non. Malheureusement, c'est comme ça. Mais malheureusement aussi, on peut voir ça dans l'Église. Puis Jacques nous avertit, dans Jacques 2, il dit « S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, et si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction. N'êtes-vous pas juge aux pensées mauvaises? Il dénonce cette attitude. Parce qu'on a une tendance à vouloir se comparer et à vouloir s'enorgueillir de nos bonnes actions. Là, on a une tendance à vouloir s'élever. Et on peut avoir une tendance malsaine à vouloir élever aussi ceux qui ont cette même attitude. Là, parce que c'est comme si on se vante les uns les autres. Là. Je te gratte le dos, tu me grattes le dos, et on s'élève. Mais Dieu change progressivement le cœur des serviteurs de son royaume pour qu'il valorise l'humilité, pour que l'humilité soit perçue comme quelque chose de bien. Puis que lorsqu'on observe quelqu'un qui est humble, on va avoir tendance à l'honorer. Mais ça, c'est Dieu qui change notre cœur pour qu'on évalue de cette manière-là. Donc, on valorise l'humilité chez les autres, chez nous-mêmes aussi. C'est quelque chose qu'on va essayer d'obtenir. Pas dans le but de se vanter d'être humble, mais dans une vraie humilité, pas une fausse humilité. C'est quoi le standard d'humilité que Jésus donne? C'est quoi l'exemple, vous vous souvenez? Il a lavé les pieds. Mais si on regarde les différentes classes de société, là, il nous dit « Soyez humbles comme des enfants. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Wow! Mais un enfant, ça agit pas dans son propre intérêt, là. C'est sincère, c'est innocent. Quand ça rend un service à quelqu'un, c'est vraiment pour rendre service. S'il y a de la compassion pour quelqu'un, c'est vraiment parce qu'il y a de la compassion. C'est pas pour faire un spectacle. Un enfant, c'est humble. Mais il veut qu'on soit comme cela. Celui qui arrive à être le plus humble est le plus élevé dans le royaume des cieux. On voit déjà cette réaction-là dans le royaume des cieux sur la terre, dans l'Église. On va avoir une tendance, si plus on s'approche de Dieu, à valoriser l'humilité. Mais ultimement, dans les cieux, quand on va voir notre Sauveur, il va récompenser ceux qui ont une vie marquée par l'humilité. Il va les honorer. Vous vous souvenez des disciples qui compétitionnaient? Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Il disait, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler des bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Même Jésus dit que lorsqu'on va le voir, il va nous servir à table. Pourtant, il est honoré au plus haut rang. Il va nous servir à manger. Est-ce que c'est difficile, l'humilité? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est facile? Mais ce qui n'est pas évident, c'est que quand on se regarde soi-même et qu'on dit « je veux être humble », est-ce qu'on peut y arriver? Alors, et aussitôt que tu y arrives, tu tombes dans l'orgueil parce que tu as réussi à être humble. Ben, donc, c'est quoi la façon? Comment on peut devenir humble?
Ben, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies?
Ouais. Ça peut passer par l'épreuve. L'épreuve, ça nous humilie. On se rend compte de notre impuissance puis qu'on a besoin de Dieu. Et plus on apprend à connaître Dieu, plus on voit le fossé qui nous sépare. Là. On peut sonder notre cœur pour voir qu'est-ce qui nous empêche là, d'arriver au standard de Christ. Là. Il y a des choses parfois qu'on ne veut pas lâcher prise. Là. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher humblement avec Dieu? On ne veut pas abandonner nos droits, nos privilèges qu'on pense qui nous sont dus. On n'est pas toujours prêt à supporter l'injustice, supporter d'être humilié. Ouais, on pourrait souvent s'éviter des douleurs, puis on pourrait s'éviter de tomber si on restait accroché à Dieu, là, à Jésus, puis on suivait son exemple. Là, on garde les yeux fixés sur lui. Ah ouais, c'est vrai, on peut arrêter de parler aux gens. Ben, sauf que lorsque c'est utilisé pour pour confesser à Dieu son état de pécheur. C'est très utile là, de parler au « je ». Lorsque c'est pour se vanter ou pour faire son éloge. Mais c'est sûr que lorsqu'on se concentre, on regarde à Christ et on regarde à nos frères, mais pour les servir, on est moins centré sur notre nombril. Là. Puis c'est en servant qu'on pratique l'humilité. Jésus, c'est ça qu'il dit comme exemple. Là. L'humilité, là, c'est de servir, de se voir comme l'esclave des autres. Accepter la correction de Dieu comme étant une bonne chose. Bon, on va prier, on va conclure.